Bonjour, bienvenue sur Radio Méga, à Je vois rouge. Si les martiens nous entendent à travers nos ondes, sachez que l'on parle de plus en plus de vous.
Bonjour Cécile.
Bonjour Mimiman. Alors effectivement, Lisa a bien raison parce qu'aujourd'hui on voit rouge. Oh. Et pas que la lumière de l'enregistrement puisque nous allons parler de la planète rouge avec l'arrivée de Insight sur son sol martien. Oui.
Ouais.
Mais tout de suite, passons à l'actualité.
Alors, qu'est-ce qu'on zase à l'actu?
Alors, sortie de Youno.
Why Youno? Alors, ça se dit Why Youno Host, parce qu'en fait, ça veut dire pourquoi tu t'héberges pas? Ah. Why Youno Host, en fait. Why Youno. Voilà.
3.3.0.
Voilà. Alors, cette version comprend de nombreux changements significatifs, parmi lesquels la liste des applications installables a été retravaillée, le mot de passe root est maintenant synchronisé avec le mot de passe admin. Plusieurs bugs importants ont été corrigés, hein, une petite liste, et de nombreuses améliorations sur les traductions. Donc c'est sympa ça.
Wow.
Ça c'est pour s'auto-héberger.
Ça c'est une bonne solution.
Ouais,
c'est,
faut vraiment franchir un cap pour s'auto-héberger, mais voilà, pour ceux qui ont envie, c'est une bonne solution.
Allez-y. Et sortie de LunOS d'Opio, une distribution de WebOS.
Rappelons que WebOS est une adaptation de GNU Linux pour le mobile, libérée par HP il y a des années. Hein. En fait, ils avaient lancé ça à l'époque des Palm, enfin juste après les Palm Pilot et compagnie, et avant l'iPhone. Et puis bah, ça avait mouru un peu, ça prenait la poussière. Et le développement a été repris par LG pour ses télévisions. Et donc ils ont republié en fait tout le développement qu'ils ont fait, alors sans l'historique, donc du coup il y a des polémiques là-dessus parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont changé tel truc, on saura jamais, mais bon quand même il y a des gens qui se sont mis à faire revivre ça.
Sortie de FreeBSD 12.0.
Ouais, donc c'est une version majeure de FreeBSD, donc il n'y a pas que GNU Linux hein, dans les OS libres, on vous l'a déjà dit, et puis il y a aussi Dragonfly BSD 5.4 qui est sorti. Donc c'est une version, c'est une autre distribution BSD qui est un peu moins connue.
Mm-hmm.
Mais voilà, il y a plein de nouveautés.
Et le code source de PSGEOS ?
Alors PCGEOS, alors GEOS en fait c'est une interface graphique, un système d'exploitation et une interface graphique pour au départ les Commodore 64.
Il a été
et
publié.
Et puis il y avait une version, donc la version Commodore 64, le code source avait déjà été publié. Et là, la version pour PC a été publiée sous licence Apache 2.0, donc peut-être que ça sera bientôt porté sur FreeDOS.
Bien. Campagne d'Elise pour avoir de la fibre en neutre, de la fibre neutre en Loire.
Ouais, Elise souhaitait fournir des offres d'abonnement en fibre pour les particuliers, les associations et les entreprises. Et aujourd'hui, donc, ils ont l'opportunité d'être la première association en France à raccorder des abonnés EES à la fibre optique à l'échelle d'un département. Donc si vous voulez les soutenir, donnez des pépettes.
Une petite ville du Massachusetts investit.
C'est un Massachusetts. c'est dur à écrire. Il y a plein de lettres en double et tout.
1,4 million de dollars dans son propre réseau de fibres.
Ouais, plutôt que de payer Comcast moins cher et moins rapide, en fait, ils ont dit non, votre offre, elle nous plaît pas. On va investir, on va mettre notre propre réseau de fibres en propre. Comme ça, on l'aura pour nous.
Oh, bon anniversaire IPv6.
Oui, IPv6 a 20 ans et on attend toujours qu'il soit utilisé.
Oh, voilà. Bien joli, oui. Oh. Des utilisateurs d'or machine à pression positive continuent à espionner par leurs assureurs.
Oui, alors pour rappel, la PPC, c'est pas PowerPC, hein, c'est autre chose. En fait, c'est une espèce de pompe qui va soulever les trucs qui pendouillent, qui sont trop flasques chez certaines personnes et qui les empêchent de dormir. Enfin, ou plutôt qui les empêche de respirer pendant qu'ils dorment. Et donc, ces machines récupèrent plein de données pendant la nuit, et les mettent sur une petite carte SD et tout, puis des fois, ils les envoient aussi aux médecins, enfin en tout cas à ceux qui viennent les poser, puis le médecin, lui, récupère une petite feuille A4 avec des graphiques tout pourris, impossibles à lire. Par contre, du coup, apparemment, certains assureurs auraient aussi accès à ces données sur certaines machines, donc c'est un petit peu gênant quand même.
Ah, carrément, oui.
Voilà.
Mobilisons le prochain projet de Framasoft.
Alors ça c'est bien, j'ai pas eu le temps de lire exactement comment ça marchait, mais on va vous lire le communiqué hein, de Framasoft. Ils font des communiqués avec presse maintenant, limite. Donc avec Mobilisons, Framasoft vous propose de contribuer à un outil qui peut-être remplacera pour vous et vos réseaux les calamiteux événements Facebook et autres meet-up farcis de trackers. Un outil qui permette de se retrouver en toutes sortes d'occasions, des plus intimes aux plus collectives, sans espionnage de votre vie privée. Et au fait, Mobilison sera fédéré, comme Mastodon, comme Peertube.
Intéressant. Breton 2.0, aider Mozilla à reconnaître la langue bretonne.
Oui, alors je crois qu'on vous a déjà parlé, Mozilla, un projet de reconnaissance vocale. Et donc, il invite les gens à lire des phrases pour avoir plein d'échantillons de voix. Et là, ils font pareil, ils faisaient ça pour le français, entre autres. Et là, ils font pareil pour le breton.
Ah, une bonne nouvelle. Et tout de suite, nous allons faire une petite pause musicale avant de nous retrouver pour Insight.
Ouais, petite pause musicale.
Eh bien, c'était une petite pause qu'on vous propose avec Wolfpack de Dientown. Et tout de suite, nous allons parler de Mars. mars.
Wow.
Et oui, parce que le 26 novembre dernier, à 20h57 précisément, Insight s'est posé. Cet événement était suivable en direct sur Internet. Bien sûr, c'est pas la première fois que ça arrive. Mais Insight apporte aussi une nouveauté. Pour la première fois, le bruit du vent qui souffle à une vitesse comprise entre 18 et 25 km/h est enregistré et transmis au sol. Écoutez bien ce qui s'est passé. Alors, non, hein, c'est bien du son martien. Hein.
Wow.
C'est magnifique, hein.
C'est beau.
C'est la première fois qu'on entend.
C'est émouvant.
Et on vous en fait profiter. Il faut se rendre compte que la conquête de notre planète voisine a commencé depuis déjà 60 ans. L'Union soviétique, l'Europe et les États-Unis se sont mis en quête de pouvoir conquérir cette planète avec plus ou moins de succès. Alors, on va faire un petit peu d'histoire. Donc, c'est une multitude de missions qui se sont succédées à partir des années 60. Les premiers à tenter l'aventure furent les Russes, avec la sonde Mars 1 qui devait s'accrocher à l'orbite martienne. Ce fut beaucoup d'échecs, malheureusement, au début. L'imprécision des trajectoires, l'impossibilité parfois de s'arracher de l'extraction terrestre, les explosions des lanceurs ont finalement eu raison de certains de ces projets. Avec le temps, les premiers à obtenir succès furent les Américains en 1965 avec Mariner 4. Même si c'est la première planète à côté de la nôtre, il leur a fallu à la dernière mission compter pas moins de 7 mois de voyage environ pour l'atteindre. En 50 ans, plus de 40 sondes orbiteurs et atterrisseurs ont été envoyées vers Mars. La première à se poser furent Viking 1 en 1975. Dans l'histoire de la conquête martienne, on note que 40% de succès uniquement pour l'atterrissage des sondes. Autant dire... on avait Insight pour Insight, on avait à peine une chance sur deux. Mmh. Alors, pour un peu reprendre les termes techniques et scientifiques, donc, une sonde spatiale est un véhicule lancé sans équipage humain, donc oui, forcément, mais pas des humains dedans encore, dont l'objectif est d'explorer un ou plusieurs corps célestes. Un orbiteur, ou une sonde orbitale, désigne une sonde spatiale qui étudie une planète ou un corps céleste en se plaçant en orbite autour de celui-ci.
Elle tourne, mais elle s'arrête pas. Hein, c'est comme le train pour Pau.
C'est ça. Un atterrisseur, comme son nom l'indique, est un engin spatial embarqué dans un véhicule spatial destiné à se poser sur la surface d'un astre. Deux catégories, les fixes et les mobiles. Alors, il y avait effectivement des contraintes, bien que ce soit effectivement notre plus proche planète. La première des contraintes, hormis le coup, c'est qu'il nous faut 6 à 7 minutes pour recevoir les informations en provenant de Mars. Les appareils envoyés là-bas doivent avoir une autonomie d'action programmée importante. Des manœuvres sont possibles à distance. Le temps de réponse est une grosse contrainte quand même. Les Russes ont fait preuve de beaucoup de courage. Avec le recul, on peut se rendre compte qu'ils n'étaient pas très loin des Shadoks. Je cite. Chez les Shadoks, la situation est satisfaisante. Les essais de fusée continuent à très bien rater. Car c'est un principe de base de la logique Shadok. Ce n'est qu'en essayant continuellement que l'on finit par réussir. Ou en d'autres termes, plus ça rate et plus on a de chances que ça marche.
Oui.
Je peux supposer que les Américains ont aussi appris de ces échecs. Pour les Européens, nous ne sommes pas en reste. En effet, Schiaparelli en 2016 n'a pas pu se poser convenablement sur la planète. Et selon les dernières informations, il se serait déployé qu'à moitié. L'environnement martien n'est pas le même que sur Terre. En effet, bien qu'elle ceci soit composée d'une atmosphère, elle est quand même beaucoup moins dense. On attribue aussi cette légèreté à la perte du magnétisme, ce qui fait également que Mars est davantage exposé au vent solaire. Aussi, l'environnement reste sujet à de nombreuses tempêtes de sable. Ce sable qui aussi causa la perte de Spirit qui se termina en sablé. Celui-ci occulterait beaucoup la lumière solaire. Et ce qui fait que quand nos sondes ont besoin du soleil pour pouvoir pomper leur énergie, ça reste quand même problématique. Mmh. Aussi, il est fortement recommandé d'atterrir en fait vers l'équateur de Mars. C'est ce qui a été jusqu'à présent utilisé pour avoir le maximum de chance. Bien que la dernière sonde envoyée par les Américains qui s'appelle Phoenix a atterri à l'un des pôles.
D'accord.
Donc il faut savoir bien viser, ouais. Et des calculs sont nécessaires pour un choix de la destination. Les températures sur la surface ne sont pas celles que nous connaissons ici, effectivement, il faut compter entre moins 133 et 17 degrés. Autant dire que les appareils électroniques et informatiques sont mis à rude épreuve.
Ouais, bah, plus 17 degrés, donc ça veut dire que potentiellement il peut y avoir...
Un peu plus.
Alors, l'eau L'eau gèle à 0 degré, mais à 0 degré à la pression atmosphérique au niveau de la mer. Et donc, du coup, vu que là-bas, il y a beaucoup moins de pression, parce qu'il y a beaucoup moins d'atmosphère, les températures ne sont pas les mêmes aussi. Donc, il faut faire attention.
C'est ça. Et le progrès informatique a aussi permis une grande avancée dans ce domaine. D'abord, l'affinement des simulations de trajectoire. Et pour la dernière mission, j'ai entendu qu'au fur et à mesure de l'avancée sur l'orbite martienne, les scientifiques ont corrigé la trajectoire pour permettre un angle plus parfait dans l'entrée de l'atmosphère martienne. L'atterrissage des objets de la surface est un exercice périlleux. D'abord, il y a une phase de largage du module. La résistance du bouclier thermique est nécessaire. Il faut s'imaginer que celui-ci évite de prendre totalement feu, car il va à une vitesse assez extraordinaire. Le déploiement du parachute permet de retenir la sonde et enfin, des rétrofusées s'enclenchent pour ralentir et permettre un atterrissage tout en douceur. Dans cette phase, dans la phase de quand il tombe quand il rentre dans l'atmosphère, en fait, il arrive à l'équivalent de 8G, soit 20 000 km/h. Pour terminer effectivement sa course à 8 km/h, autrement dit la vitesse d'un escargot, quoi. Donc cette phase d'atterrissage était cruciale et en direct, j'ai pu observer comme des milliers d'internautes les 7 minutes précieuses et intenses qu'on a connues dans la salle de contrôle où les gens étaient sagement assis devant leurs écrans surveillant tout type de paramètres leur permettant de se rassurer sur l'atterrissage d'InSight. Et l'atterrissage effectivement est autonome. Parce qu'effectivement, en 7 minutes de lag, tu n'as pas le temps de voir entre le moment où il descend dans l'atmosphère et au moment où il atterrit.
Essayer de corriger la trajectoire en cours de route, c'est même pas la peine, quoi.
À ce niveau-là, c'est terminé. Et effectivement, il y a eu différents types d'atterrissage. Par exemple, l'atterrissage est autonome pour toutes les sondes qui atterrissent. Et ça rapproche un petit peu de celle d'un drone, en fait. Oui. Bien sûr, on a vu toutes sortes de méthodes émerger, avec l'atterrissage des airbags, par exemple, pour les rovers Spirit et Opportunity. Et pour Curiosity, ce qui était bien plus lourd que ces rovers précédents, ils ont utilisé une grue aéroportée en phase finale pour descendre tout en douceur. Les missions martiennes se déroulent quand elles se déroulent. Elles se déroulent très bien. Elles sont même capables de durer plusieurs années. Le record va bien évidemment à Opportunity qui était prévu pour 90 jours et qui était encore actif en juin 2018, soit 14 années et 45 km parcourus. Il semblerait que le gel et les tempêtes auraient eu raison de lui. Certains espèrent sa sortie d'hibernation. Mais bon, c'est vrai qu'après, je pense que c'est vraiment peu probable maintenant.
Ouais, ça fait. Ouais, il a duré quand même beaucoup plus que ce qui était prévu.
C'est sûr. Alors le prochain rover, par exemple, sera européen. Donc du projet ExoMars, il est prévu pour 2020, donc dans 2 ans. Mmh. Et on espère qu'il obtiendra succès et viendra effacer les échecs précédents comme celui qu'on avait vu avec Beagle 2. Mmh. Alors, au niveau des découvertes, si depuis les années 60, beaucoup de missions se sont déroulées, les apprentissages sur la planète se sont vraiment développés dans les années 90. Les orbiteurs et les sondes posées sur place, telles que les rovers, ont changé la vision de cette planète avec le parcours de sa surface. La sonde et atterrisseur Phoenix a confirmé en 2008 la présence d'eau au niveau de la calotte polaire qui avait été découverte par l'orbiteur Mars Express. La planète connaît également des épisodes volcaniques importants, le dôme volcanique de Tarsis, a provoqué un gigantesque glissement à la surface de Mars. La surface de la planète aurait basculé autour de son noyau de 20 à 25 degrés, provoquant le mouvement de rivières, volcans et de calottes glaciaires. Dernièrement, il aurait été découvert aussi la présence de molécules organiques, telles que le méthane confirmé par le rover Curiosity. Alors pour l'InSight aujourd'hui, elle va devoir remplir différentes missions. Donc, déterminer la taille et la composition à l'état solide ou liquide du noyau planétaire, en fait, elle va avoir des sondes qui vont se plonger dans la Terre, enfin, dans Mars, en fait. Dans le sol martien.
Voilà.
Elle va déterminer l'épaisseur et la structure de la croûte.
De la croûte.
Oui.
Croûte. Oui, alors en fait, avec des capteurs comme des sismographes, en fait. Enfin, il y a plein de méthodes pour essayer de savoir à quel endroit se situent les limites entre les différentes couches.
Oui, d'ailleurs, c'est...
Comme de l'échographie, en fait.
C'est des outils qui ont été développés en France, d'ailleurs. Mmh. Et elle sera aussi pour déterminer la composition de la structure du manteau, déterminer l'état technique des structures internes de Mars.
Thermique
de Mars, oui. Mesurer la force, la fréquence, la distribution géographique et l'activité sismique interne de la planète. Et puis aussi mesurer la fréquence des impacts de météorites à la surface de Mars. Et aussi nous permettre d'écouter un petit peu ce qui se passe là-bas. Ouais. Donc effectivement, on n'a pas entendu de martiens. Alors allons-nous vivre sur Mars? Alors aussi, InSight est présent aussi pour répondre à cette question grâce à cette analyse en profondeur du sol. Elon Musk, entre autres le PDG de... Comment il s'appelle là ?
Tesla.
Tesla. En est convaincu, d'ailleurs, il prévoit dans moins de 10 ans de mettre en place un projet SpaceX afin de coloniser la planète rouge. Personnellement, je trouve ça un peu rude comme climat. Ce qui reste étonnant, c'est que Mars et la Terre sont malgré tout à un âge assez similaire et il semble que par le passé, Mars devait être un petit peu comme la Terre. Et pourtant, toujours pas de petits hommes verts.
Et oui, alors ce qu'il y a, c'est que Mars est quand même beaucoup plus petite que la Terre. Alors on pense en tout cas que c'est pour ça qu'elle s'est refroidie plus vite. Et puis il y a aussi, du coup, vu qu'elle s'est refroidie plus vite, est-ce que c'est pour ça ou en même temps il n'y a pas de tectonique des plaques ? C'est contrairement à la Terre, il n'y a pas plusieurs morceaux en fait de plaques continentales qui bougent et qui frottent et qui renouvellent le sol, etc. Là, c'est vraiment une croûte
assez dense.
Voilà, en un seul morceau. Et donc, comme tu as dit, elle bouge un peu autour du noyau de temps en temps, mais à part ça, ça bouge pas trop, quoi. Donc, il y a toutes ces trucs-là qui font que ça s'est refroidi. L'atmosphère est partie. Vu qu'il y avait plus de champ magnétique autour de Mars, enfin beaucoup moins, le vent solaire a pu grignoter l'atmosphère.
Oui.
Et donc, du coup, il y a un centième de ce qu'il y a sur la Terre. Et donc, du coup, c'est vrai que pour la vie, c'est plus compliqué à se maintenir.
Ça va être compliqué.
Mais bon, on sait jamais, hein, peut-être.
Voilà, pour notre sujet du jour, on remercie Sylvain d'avoir fait des petites corrections sur mon sujet. Et tout de suite, nous allons faire une petite pause musicale pour nous retrouver tout de suite après pour l'agenda.
Écoutez.
Les hommes de l'espace arrivent. Venez, on vous attend. Venez. Do you speak Martien? Oh, la soucoupe. Do you speak Martien? Oh, et... Do you speak Martien? Oh, la soucoupe. Do you speak Martien?
Alors pour les deux auditeurs qui sont encore avec nous,
c'était DJ Dadika. Un vieux truc, oui, ça parlait de martiens forcément.
Ouais, bah, oui.
Alors rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi. Donc si vous voyez des événements pour le samedi, c'est trop tard.
Voilà. Alors il y a plein de trucs. Hein. Conférence cybersécurité des objets connectés.
Avec par, David Daly.
Voilà, enseignant-chercheur intervenant en partenariat avec les CISAR.
Ouais, attention, c'est payant. Hein.
Alors oui, c'est 5 euros pour les adhérents de l'UPAVAL, donc c'est l'Université Populaire de Valence, et puis 7 euros pour les non-adhérents. Donc ça parle des puces, des circuits intégrés qui ont investi notre quotidien. Donc quelles sont les conséquences en termes de cybersécurité et tout ça.
Donc ça se passe à les ISAR le 18 décembre 2018 à 19h.
Voilà. Installe partie à Grenoble.
Ah,
c'est
wow.
Nos amis de la guilde qui font ça. Donc c'est mardi 18 décembre à 19h. C'est Démotique 8 Grand Rue à Grenoble.
Et vous avez Contribatelier, donc le Contribatelier, c'est un atelier de contribution ouvert à tous et nous essayons de contribuer à tous les logiciels libres dans la joie et de la bonne humeur.
Voilà, sans oublier sans obligation de moyens et de résultats, mais tant qu'on se fait plaisir hein, et contribuer au sens large, hein, c'est pas que du code, ça peut être du design, de l'interface utilisateur, l'expérience, des traductions aussi, c'est utile, et puis des tests aussi, parce que pour être sûr que ça marche.
Avec donc des retours d'utilisateurs.
Voilà, c'est mercredi 19 décembre à partir de 19h à l'atelier des médias, donc c'est vers Croix-Paquet à Lyon.
Oh, une soirée G3ible.
G3ible. Donc ça c'est le 21 décembre de 19h30 à 23h30 à peu près, hein, ça dépend, et c'est à la MJC Château Vert à Valence. Donc si vous avez des questions, si vous souhaitez installer GNU Linux ou si vous avez des questions parce que l'imprimante marche pas ou des choses comme ça, vous pouvez venir et il y a plein de gens qui vont vous aider.
Et vous avez aussi l'Amiga Bouffe le samedi 22 décembre à partir de 16h à Clairieux.
Voilà, ça sera l'Amiga Bouffe de Noël.
Et vous retrouverez tous nos liens sur AAA.fr. Nous allons frotter la boule de cristal. Qu'allons-nous voir?
Bonne question.
Gamer à Arkanoid, je cassais pas des briques.
Oh, old school, souviens-toi, en 1987, on rembobinait des cassettes avec un crayon et j'en connaissais un rayon.
Amigaïste, avant de monter dans le bus, j'étais sur Obliterator.
Oui, pour oblitérer le ticket, voilà. Musicien, tu connais le groupe de chanteurs le plus rigolo? Le groupe Ouais, j'ai pas tout compris, mais en fait, faudrait qu'on récupère la vidéo, mais...
Ouais, Microsoft, alors Windows, c'est pas bon pour la forêt, parce que
mais
ça
si,
plante...
c'est bon pour la forêt.
C'est bon pour la forêt, parce que ça plante tout le temps.
Eh bah ouais, donc ça plante, mais pas des arbres. électronicien, on est tous soudés dans la famille.
Waouh, c'est magnifique. Eh bien, merci les auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout.
Ouais, c'était dur, hein.
La semaine prochaine, vous nous retrouvez effectivement pour de nouvelles news, nouveaux sujets sur les choses qu'on aime et puis aussi des conseils pour Noël. Ouais. À très bientôt, bye bye.